avez demandé les infos ?
Oui, oui !
T'énerve pas. Sois cool, mon grand.
Magnifique. M-A-G-N-I-F-I-Q-E.
Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le brief du samedi 21 septembre, le week-end on passe en format magazine et aujourd'hui on va parler rugby alors que la Coupe du Monde vient de commencer au Japon. Je vais vous raconter une édition mythique, celle organisée et remportée par l'Afrique du Sud en 1995 sous les yeux de Nelson Mandela, 4 ans après la fin de l'apartheid. Un succès qui dépasse largement le cadre du sport et qui devient le symbole de ce qu'on appellera la nation arc-en-ciel. Une histoire immortalisée par le film Invictus de Clint Eastwood. Sauf que la vérité est plus complexe, je vous raconte la vraie histoire de la victoire de l'Afrique du Sud en 1995. 4 ans après la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud accueille la Coupe du Monde de rugby. Pour Nelson Mandela, c'est l'occasion rêvée de montrer un pays enfin uni. Sauf que les Springboks, à l'époque, c'est une équipe de blancs, comme s'en souvient Alain Acco, journaliste qui a couvert toute la compétition pour Europe 1.
Le rugby, c'est un sport de blancs en Afrique du Sud. Et de blancs qui avaient la réputation d'être extrêmement racistes. Le seul emblème qui était mis en avant par la fédération sud-africaine, c'était Chester Williams, qui était lui un métis de la ville du Cap. Pour les autres noirs, les autres habitants d'Afrique du Sud, il n'était pas du tout représentatif de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils vivaient.
Mais tout bascule avant la demi-finale. À partir de ce moment, tout le pays est vraiment derrière son équipe, y compris la communauté noire.
Là, ils nous commençaient à nous parler de rugby. One nation, one team. Une nation, une équipe. C'était le slogan officiel qui était martelé à la télévision, martelé sur les panneaux publicitaires, à l'aéroport, sur les bords des routes, dont ils n'avaient rien à faire jusque-là. Et tout a basculé avec la demi-finale.
Et le 17 juin 1995, c'est toute l'Afrique du Sud qui affronte le 15 de France à Durban, sous une pluie battante. Le 15 de France fait mieux que résister, mais l'arbitre gallois Derek Bivan refuse 2 essais aux Français, dont un qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Dans les dernières minutes, Abdelatif Benazi plonge dans l'embute. Sur la ligne ou pas, impossible de le savoir.
Je suis incapable de dire si le ballon de Benazi était sur la ligne ou à 5 cm. C'est un énorme paquet de joueurs à l'autre bout du terrain.
Benazi, lui, assure encore aujourd'hui qu'il y avait essai. Mais c'est bien l'Afrique du Sud qui gagne, 19 à 15.
Écoutez la réaction de Philippe Saint-André devant Alain Acco.
C'est très très dur de voir des joueurs en pleurs et de voir un groupe qui est très très déçu, car aujourd'hui il y avait la place d'être en finale.
La finale, ce sera sans la France, mais une affiche de rêve. Entre les Springboks et la meilleure équipe du monde, la Nouvelle-Zélande, grandissime favorite, avec son immense star, John Alomu. Oui, mais voilà, le 24 juin 1995, l'histoire est en marche. Pour battre les All Blacks, Nelson Mandela lui-même va mouiller le maillot. Vous avez sans doute vu ces images entrer dans la légende.
Nelson Mandela est arrivé sur la pelouse avec le maillot des Springboks, avec la casquette des Springboks, et qu'il est allé saluer tout le monde. Et là, honnêtement, on avait tous mais des frissons.
La finale est très serrée, les deux équipes doivent aller en prolongation et finalement le rêve de toute une nation se réalise. L'Afrique du Sud gagne 15 à 12 et devient pour la première fois championne du monde de rugby.
Que d'émotion sur la pelouse de l'Ellis Park tout à l'heure lorsque le président sud-africain M. Mandela, revêtu de son maillot de l'équipe nationale, a remis la Coupe du Monde à François Pinard, le capitaine des Springboks qui était en pleurs.
Toute l'Afrique du Sud est en liesse, unie derrière son équipe. Oui, mais voilà, derrière la belle histoire, il y a les premiers soupçons. D'abord, on apprend rapidement que la moitié des All Blacks étaient malades le jour de la finale, victime d'une mystérieuse intoxication alimentaire. Le garde du corps de Nelson Mandela parlera lui-même d'un empoisonnement. De la part de qui ? Personne ne le sait encore aujourd'hui. Puis le temps passe, et alors que le mythe de la nation arc-en-ciel a déjà été balayé, c'est au tour de l'équipe sud-africaine elle-même d'être directement visée. On les accuse de s'être dopés. Pourquoi ? Parce que ces 10 dernières années, 4 joueurs meurent, dont 2 par une maladie rare, la maladie de Charcot. Et le 6 septembre dernier, c'est le choc. Chester Williams, le seul métis de l'équipe, est emporté par une crise cardiaque à seulement 49 ans.
Legendary 1995 World Cup winning Springbok winger Chester Williams has passed away.
Mais les joueurs ont toujours nié s'être dopés. Seul le capitaine François Piénard avait livré une confession troublante dès 1999 dans son autobiographie.
La plupart des joueurs tendaient la main quand le médecin de l'équipe faisait circuler la boîte à pilules avant les matchs.
Il y avait un culte du corps, de la force, et on savait que les mecs prenaient des cachets, prenaient l'équivalent de la créatine. Mais c'était une période où le dopage n'était pas stigmatisé comme il l'est aujourd'hui ou comme il l'a été quelques années plus tard.
Alors oui, la légende de ces Springboks est aujourd'hui largement écornée, mais ce qui reste dans l'imaginaire collectif, c'est Nelson Mandela sur la pelouse de l'Ellis Park et un pays enfin uni après des décennies d'apartheid.
Je pense que l'histoire l'emporte sur la compétition et qu'on ne pardonnera pas tout, on ne peut pas tout pardonner à ceux qui ont triché pour gagner, mais l'enjeu était tel que je peux concevoir que je ne sais pas à quel niveau on est cherché par tous les moyens à faire triompher cette équipe. Au niveau de la réconciliation nationale, il était primordial que l'Afrique du Sud gagne sa Coupe du Monde. Ça a uni le pays, ça a soudé le pays pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Mais en tout cas, ça a participé à la construction de ce pays.
C'était le brief, la véritable histoire d'Invictus. Un grand merci à Alain Acco, à la documentation et aux archives d'Europe 1, ainsi qu'à Guillaume Perraudeau et Clémence Olivier. Demain, vous retrouverez mon collègue Laurent pour découvrir les 5 expos de la rentrée à ne pas manquer. En attendant, je vous souhaite un bon samedi.